Les Canuts, première partie, chapitre 5. Le jour, pâle et froid, commençait à poindre. Sous un ciel bas et chargé de nuages, d'épais brouillards traînaient sur la ville assoupie. Surexcité par les incidents de la veille, dans l'angoisse de ce qui allait arriver, Marius avait mal dormi. La situation devenait intolérable depuis la subite augmentation des prix de façon. Les fabricants ne donnaient presque plus de pièces aux conditions nouvelles et les trois quarts des métiers chômaient. C'était maintenant la faim qui frappait à toutes les portes. Les plus malheureux finissaient par aller au magasin solliciter de l'ouvrage, au-dessous du tarif. Mais la plupart n'osaient pas. Des individus, venus on ne savait d'où, s'introduisaient dans les ateliers, inspectaient les livres et défendaient de travailler à bas prix. On avait peur. On craignait d'être dénoncé. Et l'on souffrait encore. Mais ça ne pouvait plus durer. Il fallait en finir d'une manière ou d'une autre. La veille, dans les groupes d'ouvriers, on avait parlé de s'entendre pour la cessation complète du travail. Marius voulait savoir ce que l'on déciderait. Aux premières lueurs du jour, il se leva, plongea dans l'eau froide sa tête brûlante de fièvre et s'habilla. Craignant de n'être pas de retour pour la soupe, il coupa un morceau de pain à la miche, le mit dans sa poche et sortit sans bruit, pour ne pas éveiller ses parents. Il se dirigea vers la rue Tolosan. C'était chez Bresner que se réunissaient les plus audacieux organisateurs de la résistance. Ils avaient prolongé leur discussion fort avant dans la nuit et le cabaret n'avait pas été fermé. La porte était entrebâillée. À l'heure réglementaire, on s'était contenté de boucler la devanture et on avait laissé l'allée ouverte pour permettre aux ouvriers d'entrer et de sortir sans être inquiétés. Marius jeta un coup d'œil dans l'intérieur. La salle était pleine. Les quinquets brûlaient encore d'une clarté rousse, enveloppés d'une pesante atmosphère, viciés par les respirations humaines et la fumée du tabac. Les hommes, entassés dans ce bouge, avaient passé la nuit à boire. Leurs figures avinées se tournaient vers le milieu de la salle, où Bresner, debout sur un escabeau, la face rouge jusqu'à l'apoplexie, pérorait avec de grands gestes, les excitant à la révolte. L'ivresse donnait à son langage une singulière emphase et une violence inouïe.
« Ouvriers ! » criait-il. « Les sangsues du peuple spéculent sur votre faim et se partagent vos dépouilles. Insatiables, ils restent sourds aux plaintes du travailleur agonisant. « de l'or !» disent-ils. « Ou pour vous du plomb ?»« Pour résister, cessez-vous le travail ? Alors vous êtes des factieux. » Ils le persuadent au gouvernement et bientôt, les cachots de l'inquisition politique feront gémir sur vous leurs lugubres verrous. Que deviendront alors vos femmes et vos enfants? Pensez-y, citoyens. C'est par la force seule que vous obtiendrez justice. Les soldats sont aussi des enfants du peuple. Pas plus qu'aux journées de juillet, ils ne vous combattront. Hésitez-vous à lutter ouvertement? À votre aise! Bientôt, le désespoir vous mettra enfin du courage au ventre. »
De toutes les tables, à ces mots, dans un vacarme de verres et de bouteilles, partirent des bravos et des hurrahs prolongés. Et le silence ne se rétablit que lorsque le cabaretier, désaltéré, reprit sa harangue incendiaire. Marius, s'éloignant, regagna la côte des Carmélites. Ses provocations le révoltaient. Pourquoi recourir à la force brutale avant d'essayer d'obtenir satisfaction par des moyens pacifiques? Bresner jouait un vilain rôle, mais il savait bien ce qu'il faisait. Il y gagnait à ce jeu-là. Depuis qu'il était question de grève, son cabaret ne désemplissait pas. Et plus les ouvriers criaient, plus ils avaient soif. Si, à la fin de la journée, Bresner était ivre à force d'exciter à boire, sa femme ne l'était pas, et nul compagnon ne sortait sans avoir payé sa dépense. Ces gens-là s'enrichissaient de la misère des autres. Et cheminant dans la rue Masson, presque déserte, Marius, troublé dans ses idées de droiture et d'honnêteté, se demandait si le monde était si pervers, et la place de chacun au soleil si étroite qu'il fallut, pour vivre, écraser son semblable. Il se dirigeait vers la porte de la Croix-Rousse. Là devaient se trouver les vrais travailleurs, ceux qui discutaient de sang-froid, ne se laissaient pas monter la tête par des divagations. Au coin de la rue, des passants étaient arrêtés. Un homme lisait à haute voix, sur le mur, une affiche qui venait d'être apposée. Le maire de Lyon rappelait la loi sur les attroupements et terminait par un appel aux Lyonnais, les invitant à avoir confiance dans la vigilance et la fermeté des magistrats. « Les criminels d'essaim, disait l'affiche, seraient déjoués, et les imprudents qui en auraient facilité l'exécution sentiraient que leur intérêt, bien entendu, n'avait rien à gagner dans le désordre. Après avoir lu, les gens se dispersèrent sans rien dire, et Marius continua son chemin. Devant lui, deux ouvriers marchaient, la casquette sur les yeux, l'air résigné. L'un d'eux était Pierre Salavin, dit le Petit Rouge. Il les atteignit, et après un bonjour, leur demanda s'ils savaient quelque chose. Mais depuis la veille, il n'avait rien appris et allait, comme lui, aux nouvelles. « Bien sûr, il faut s'entendre, » dit vaguement Salavin. « Si on ne s'entend pas, il n'y a plus qu'à crever. Ou bien, il y aura du grabuge. » Tristement, l'autre ouvrier secoua la tête et ils poursuivirent silencieusement leur route. À la barrière du faubourg, dans un grouillement noir sous le ciel bas, 300 à 400 ouvriers en costume de travail se groupaient, discutant, échangeant leurs idées, sans cris, sans une menace, mais avec de grands gestes de lassitude et de découragement. Marius et les deux autres s'approchèrent du groupe le plus nombreux. On voyait au milieu la haute taille et la barbe noire de Buisson. Secouant ses larges épaules, le colosse parlait avec véhémence, proposait de couper toutes les pièces sur métier et d'aller en masse les porter chez les patrons récalcitrants. À son avis, c'était le seul moyen d'obtenir quelque chose. Un autre conseillait de s'adresser au maire, puisque le préfet semblait les lâcher. La plupart inclinaient toujours pour une grande manifestation qui aurait lieu le jour même. Mais les plus pratiques objectaient qu'on n'aboutirait à rien. Chacun avait son projet, tous parlaient à la fois, on ne se décidait pas. « Mais sacrebleu !» s'écria une voix. « Ce n'est pourtant pas bien difficile !» Sur une borne des pierres plantées venait de monter un vieux, en tricot marron. Tous le connaissaient.
« Albert Frédéric ! Silence ! Écoutez !»
Au milieu de la foule qui l'entourait, l'ouvrier se découvrit et d'une voix forte.
« Vous êtes tous d'avis, camarades, dit-il, d'exiger le tarif qu'ont voté vos délégués. »« Oui, oui, Vous ne voulez plus travailler aux conditions que les fabricants vous imposent.
Non, non, jamais.
Eh bien, bon Dieu. Prenez donc vos mesures pour qu'aucun métier ne batte tant que le tarif ne sera pas reconnu et exécuté. C'est par là qu'il faut commencer. Quand les fabricants auront toutes leurs commissions en retard, ils finiront bien par céder.
Oui,
cria un tisseur.
Mais comment décider ceux qui travaillent quand même?
Il faut aller chez tous, leur faire entendre raison.
Ils comprendront à la fin.
Oui, oui, allons, et tout de suite, tout de suite.
Aussitôt, on se prépara. Divisés en groupes de 7 ou 8, les ouvriers se partagèrent les différents quartiers. Puis, ils se séparèrent et se mirent en route, allant d'atelier en atelier, donnant le mot d'ordre d'arrêter les métiers, de suspendre le travail, jusqu'à nouvel avis. Marius se joignit à l'une de ses patrouilles. Durant plus de 2 heures, il parcourut avec ses camarades les rues situées entre la Grande Côte et la Côte Saint-Sébastien, entrant dans toutes les maisons, montant à chaque étage. Partout, les chefs d'atelier, qui travaillaient encore, se soumettaient avec empressement et congédiaient sans retard leurs ouvriers. La plupart des compagnons vivaient au jour le jour. Où trouveraient-ils du pain? Mais ils ne murmuraient pas. Ils s'en allaient confiants, puisque cette mesure devait améliorer le sort de tous. Seul, à un 5e étage, rue des Tables Claudiennes, un vieux, très sourd, le père Lacocca, ne put comprendre ce qu'on voulait de lui. Il retournait toujours à son métier et finit par se mettre en colère. On le laissa. La patrouille terminait sa ronde par la rue Humbert-Colomès. Il ne restait plus que quelques maisons à visiter. Marius commençait à avoir faim. Il avait tiré son morceau de pain et le partageait avec un de ses camarades, lorsqu'un mitron, qui venait en sens inverse, la corbeille de pain sur la tête, les héla.
« Hé, les enfants, j'ai dans l'idée que vous ferez bien de vite vous trotter. »«
Qu'y a-t-il donc ?»
Le mitron s'expliqua. Du coin de la rue, il venait d'apercevoir un piquet de gardes nationaux montant la Grande Côte. Ils étaient au moins 50, l'arme au bras.
« Ça doit être vos chers patrons, » ajouta-t-il, « qui viennent voir si vous êtes sage. »
« Merci de l'avertissement. Tu es un bon gonne. Rejoignons vite. »
Ils prirent le pas de course. Le temps pressait. Il fallait s'entendre. Qu'allait-on faire? On ne s'y attendait pas. La veille au soir, le bruit avait couru qu'il montrait, mais personne ne voulait y croire. Par intervalle, ils tournaient la tête. On ne voyait rien encore. Ils arrivèrent, haletants. Sur la place de la Croix-Rousse et aux abords de la porte, la foule s'était grossie de tous ceux qui avaient quitté les ateliers, venus là d'instinct pour causer et savoir. Aussitôt, la nouvelle courut. La garde nationale montait. Ce fut une longue rumeur. Mais on ne s'effrayait pas. On les attendrait. On verrait ce qu'ils voulaient. N'était-ce pas des hommes comme les autres? Dans un groupe de chefs d'atelier, La Chapelle et Buisson s'animaient.
« Est-ce qu'on n'est pas assez de monde pour leur répondre ?»«
Surtout, » dit Buisson, la tête haute, « qu'ils tâchent de parler poliment !»
Des compagnons étaient montés sur des bornes pour donner le signal.
« Les voilà! Les voilà !»
Un mouvement se fit dans la foule. Tous les regards se tournèrent vers l'extrémité des pierres plantées. Le piquet parut, s'avançant au pas accéléré. Un officier marchait en tête, l'épée à la main. c'étaient des gardes de la première légion. Ils n'étaient plus qu'à 100 pas du rassemblement. L'officier mit ses hommes en bataille et commanda halte. La foule grossissait toujours. Les femmes accouraient de toutes parts, traînant des enfants. Et la rumeur s'étendait, plus puissante, à la vue de ces hommes armés, qui semblaient vouloir les chasser de chez eux. Des chefs d'atelier reconnurent des fabricants parmi les gardes nationaux. Ils les montrèrent du doigt, les désignèrent. On se répétait leurs noms de bouche en bouche, avec des mots indignés. Ils couraient des frissons de colère. L'officier, d'un œil clair, regarda la foule. Il comprit tout. Les autorités prétendaient faire une manifestation platonique en l'envoyant, avec une poignée d'hommes, disperser les rassemblements. Là-bas, on ne se rendait pas compte. On avait tergiversé tout le matin, donné des ordres, des contre-ordres. Mais ce qui était possible à 8 heures ne l'était plus maintenant. Pourtant, il avait sa consigne. Il ne reculerait pas. Il parcourut le front de sa troupe, nerveusement, communiquant son impression à ses hommes. On ne pouvait s'amuser à parlementer. Cette foule était trop montée, ce serait inutile. Il fallait balayer. Tout à coup, sa voix vibrante d'émotion retentit. Au commandement, les gardes nationaux mirent la baïonnette au canon.
« En avant !»
Au premier rang de la foule, Buisson s'était avancé.
« Le premier qui recule est un lâche »
cria-t-il. Et, les bras croisés sur sa large poitrine, de sa haute taille dominant la multitude, l'encourageant par son audace, bravant du regard les assaillants, il attendait, impassible. L'arme au bras, les gardes nationaux marchaient en bon ordre, l'officier en flanc, pour laisser le champ libre. La foule demeurait immobile. Elle n'était plus qu'à 20 pas. De nouveau, la voix brève. L'officier commanda.
« Croisez ! Et !»
Il s'attendait à voir la foule reculer. Nul ne bougea. La chapelle lâcha un juron.
« Sacre ! Oseront-ils bien nous trouer la peau ?»
Les gardes avançaient toujours. 10 pas, seulement, les séparaient de la muraille vivante. Devant eux, Buisson, les dents affreusement serrées, dans sa barbe noire, blêmissait de colère. Le front bas, l'œil fixe, solidement campé, il semblait prêt à se ruer sur ses adversaires. Soudain, il redressa la tête et, saisissant son chapeau, le jeta à 5 pas devant lui.
« Pas un pouce de plus !»
cria-t-il d'une voix tonnante. Quelques gardes nationaux semblaient hésiter. Mais, près d'eux, des ricanements se firent entendre. On croirait qu'ils avaient peur. Le chapeau fut foulé aux pieds. Le sang monta violemment au visage de Buisson.
« Au fusil, camarade ! »
cria-t-il, étouffant.
« Tordons le cou à ces lâches !»
Ouvrant les bras, il se rua sur la troupe. De chaque main saisit une baïonnette et d'un violent effort, désarma 2 gardes. La foule s'était lancée à sa suite. Quelques ouvriers avaient des bâtons. D'autres tirèrent leurs couteaux, prirent des pierres. À corps perdu, ils se précipitèrent sur les assaillants, au milieu de cris et d'imprécations. Les gardes nationaux tentaient de résister. Mais en quelques secondes, la foule exaspérée les avait tournés, pris à revers. Les resserraient, paralysaient leurs mouvements. On leur arrachait leurs fusils, on dégainait leurs sabres, on coupait les courroies des gibernes. Et des ouvriers, que les premières baïonnettes avaient effleurés, ivres de fureur, rouaient de coups ceux qui tombaient entre leurs mains.
brandissant un fusil de chaque bras. Terrible! Buisson frappait à droite, à gauche, fêlant des têtes, enfonçant des côtes. Les derniers gardes avaient pu se garer à temps et sauver leurs armes. D'un effort désespéré, ils parvinrent à dégager leurs camarades. Puis, précipitamment, tous ensemble, battirent en retraite, meurtris, ensanglantés, la rage au cœur. Et, jusqu'à la rue Néret, les gones les accompagnèrent de loin, leur lançant des pierres, les appelant lâches et vendus. Maîtres du terrain, les ouvriers dédaignèrent de les poursuivre. Cependant, quelques-uns s'agitaient encore, criant très haut, qu'il fallait sur le champ profiter de cet avantage et descendre en ville. Un sabre à la main, Favre gesticulait, vociférait des injures. Il l'avait dit depuis longtemps que l'administration était d'accord avec les fabricants pour voler l'ouvrier et qu'on recevrait le peuple à coups de fusil s'il réclamait. Le croirait-on enfin? Se laisserait-on égorger comme des moutons? Il fallait marcher à l'attaque. Un ouvrier valait un garde national, sacrebleu. Il vint crier à la figure de Marius, qui, des premiers, s'était jeté sur les agresseurs, au risque de se faire éventrer, et portait la giberne et le fusil d'un garde national qu'il avait renversé à terre. Favre le prit à partie, voulant le persuader. Ses yeux brillaient d'un éclat mauvais. Son haleine puait le vin et l'eau-de-vie. Marius le repoussa. Encore un qui avait passé la nuit chez Bresner. En un pareil moment, cette ivresse fanfaronne le révoltait. Brutalement, Buisson fit taire l'ivrogne. Qu'avait-il à gueuler maintenant, lui qui n'avait rien fait? On ne l'avait pas vu au premier rang tout à l'heure. Où était-il donc? Favre, secoué par cette voix dure et à demi dégrisée, s'éloigna. Peu à peu, la foule s'était calmée. La masse des ouvriers voulait encore user de modération. Les vieux avaient parlé. C'eût été folie de tenter une attaque. Combien avait-on de fusils? Une trentaine au plus. Qu'était-ce que cela, en présence des forces qui leur seraient opposées? La victoire était assez belle. On pouvait s'en contenter. Prendre l'offensive serait se mettre dans son tort. Frédéric, Buisson lui-même, avait retenu les turbulents. Cependant, une cinquantaine d'ouvriers, las de rester en place, impatients de mouvement et d'action, se mirent en marche et, bras dessus, descendirent la grande côte, espérant entraîner les autres et provoquer la manifestation dont on avait parlé le matin. En tête, des apprentis de 15 à 16 ans, la casquette en arrière, contents de faire du bruit et d'ameuter les passants, chantaient à plein gosier la Parisienne. « En avant, marchons contre leurs canons, à travers le fer, le feu des bataillons, courons à la victoire !» Au bruit grandissant des voix, le poste des gardes nationaux de la première Légion, établi dans la cour du soleil, prit aussitôt les armes et sortit. La bande semblait nombreuse. On voyait des fusils. À coup sûr, la Croix-Rousse entière se ruait sur la ville. Les canuts voulaient prendre leur revanche de l'attaque de tout à l'heure. Il fallait à tout prix leur barrer le passage. Les manifestants, entraînés, maintenant braillaient comme une provocation. La mitraille en vain nous dévore, elle enfante des combattants. Sous les boulets, voyez éclore ces vieux généraux de 20 ans. Apprêtez, armes, commanda l'officier. La bande n'entendit pas et continua à brailler. Pour briser leur masse profonde qui conduit nos drapeaux sans, joue, feu! Du poste soudain, partit une décharge générale.
les braillards s'étaient tus. 8 ouvriers tombèrent. Alors s'éleva une clameur sauvage. Du côté des ouvriers, 5 coups de feu retentirent. L'officier tomba, frappé à la cuisse. Le tambour était blessé à l'épaule. Mais déjà, les gardes nationaux avaient reçu l'ordre de recharger. Il n'y avait pas de temps à perdre. Les ouvriers ne pouvaient continuer la lutte. Précipitamment, ils relevèrent leurs morts et leurs blessés. C'étaient des jeunes gens, presque des enfants. Ils les prirent à deux, l'un sous les bras, l'autre par les pieds, et, emportant leur lugubre fardeau, à la hâte, ils remontèrent la grande côte, exaspérés, un immense désir de vengeance au cœur. Les coups de fusil avaient été entendus à la Croix-Rousse. Anxieuse, la foule s'était portée vers les pierres plantées. Au détour de la rue, brusquement, la bande déboucha. Exaltée de colère, quelques-uns chantaient encore d'une voix folle. « Tambour du convoi de nos frères, roulez le funèbre signal, et nous, des lauriers populaires, chargeons leur cercueil triomphal !» La chapelle, brandissant un fusil, marchait en tête du cortège.
« Aux armes ! » criait-il. « On a assassiné nos frères !»
D'un geste, il montra les victimes. De la foule accourue, Buisson sortit, les bras en l'air, et, avec un formidable cri, répéta
« Aux armes ! Aux armes !»
Des imprécations répondirent. On avait versé le sang des leurs. Malédiction. Les ouvriers en délire l'entouraient, prêts à tout. Que fallait-il faire ? Ils lui obéiraient. Ils n'avaient qu'à commander. Mais qu'il se mit à leur tête.
« Eh bien oui, tonnerre !»
Tête nue, les cheveux en désordre et l'œil en feu, le fusil au poing, il leur parut encore grandi. Le convoi s'arrêta devant le chef acclamé. Sans retard, il fit porter les cadavres sur la place de la Croix-Rousse et donner l'alarme dans le faubourg. Il fallait que tout le monde pût les voir. Les hommes armés resteraient avec lui. Les autres se répandraient dans les maisons et saisiraient tout ce qui, dans leurs mains, pourrait devenir une arme. Dans tous les sens, on alla porter la fatale nouvelle. Ce fut le signal de l'explosion. Les morts avaient été déposés au pied de la vieille croix. Les femmes accouraient, échevelées, quelques-unes à demi vêtues, et, pleines d'angoisse, de terreur, se pressaient dans la foule pour arriver jusqu'aux victimes. Des noms étaient répétés, mais on n'osait pas croire, on gardait une espérance. Et pourtant, si c'était lui ? Une vieille femme, péniblement, s'était frayée passage. Les cadavres étaient là, devant elle, couchés côte à côte, déjà raidis, les dents serrées, blêmes et gris, sous le jour blafard. De ses yeux fatigués, elle cherchait dans le tas. Un petit maigre, le front troué d'une balle, les lèvres entr'ouvertes et l'œil encore gouailleur, semblait chanter toujours. La vieille poussa un grand cri et tomba lourdement. C'était son fils. On l'emporta. Près d'elle, une femme encore jeune s'était précipitée sur le corps d'un homme qui baignait dans son sang, l'artère carotide coupée. Violemment, elle l'embrassait sur la bouche. C'était son mari. Se relevant toute souillée, les cheveux épars, dans une douleur farouche, elle s'en alla et, comme une furie, se mit à parcourir les rues, vomissant des injures, excitant les courages, poussant les hommes à l'émeute. Et de tout le faubourg monta un long cri de haine et de rage. On avait assassiné des ouvriers. Pour laver leur sang, il fallait du sang. De toutes parts, des hommes accouraient, apportant des armes. Bientôt, le peuple entier du faubourg fut massé autour de Buisson et de sa troupe. Les uns avaient des fusils de chasse, d'autres de vieux pistolets. Ceux-ci brandissaient des haches, des fourches, des tridents. Ceux-là s'étaient emparés, dans l'atelier d'un forgeron, de barres de fer et de grands marteaux. Beaucoup n'avaient à la main que des pierres et des bâtons, ce qui s'était présenté, et marchaient au combat avec une égale fureur, une égale insouciance. De la grande rue, tout à coup, la garde nationale de la Croix-Rousse, en armes, déboucha. Son capitaine Martinon en tête. Résolument, Buisson alla au-devant de la troupe.
« Es-tu avec nous ou contre nous, Martinon ?»
Le capitaine fit halte et d'une voix ferme.
« Mes amis, cria-t-il, nous sommes tous des tisseurs. Il n'y a plus ici de gardes nationaux. Il n'y a plus que des ouvriers. »
Puis, arrachant ses épaulettes, il les jeta à terre. Une immense acclamation s'éleva. Très ému, sous sa rudesse, Buisson tendit à Martinon sa large main et balbutia un « Merci ». Déjà, les gardes nationaux, imitant leur capitaine, arrachaient aussi leurs épaulettes, rompaient les rangs et se mêlaient aux ouvriers. On songea d'abord à la défense. Les assaillants, sans doute, montraient par la grande côte. On résolut d'établir une barricade aux pierres plantées. Jeunes et vieux, chacun se mit à l'œuvre avec ardeur. À coups de pioche et de marteau, on dépavait la rue. Une partie des pierres devait servir à la barricade. Le reste était porté aux étages supérieurs des maisons voisines pour lapider les troupes. On dressait, en travers de la rue, de lourdes portes arrachées à leurs gonds. À côté, les roues en l'air, on renversait des voitures, des carrioles, réquisitionnées dans tout le faubourg. Les intervalles étaient garnis avec des pavés et des planches, des fascines fabriquées à la hâte, des tonneaux remplis de terre. Même des ouvriers, sacrifiant leur gagne-pain, brisaient la charpente de leur métier et en apportaient les madriers à la barricade. Hommes, femmes, enfants, tous, fiévreusement, travaillaient à la défense, oubliant la faim qui les mordait. Bientôt, la construction s'éleva formidable, à la hauteur d'un premier étage. Puis, les maisons environnantes furent préparées à supporter un siège. Avec des pierres et des tuiles, les toits furent crénelés, les fenêtres garnies de matelas et de paillasses pour amortir le choc des balles, et munies de meurtrières. À la tête des ouvriers, d'anciens soldats dirigeaient les travaux. Assis sur une borne, le fusil en bandoulière, Marius se reposait un instant. Il avait travaillé de bon cœur et se dévouait jusqu'au bout. Fatigué maintenant, le visage inondé de sueur, laissant errer ses regards, il aperçut tout à coup son père. Comment se trouvait-il là? Par où avait-il passé? La grande côte était obstruée. Il ne pouvait être venu que par la côte Saint-Sébastien. Il courut à lui. Jacquemin témoigna sa surprise de le voir armé d'un fusil. Du reste, le vieux était fort ému. Il venait d'apprendre coup sur coup les événements de la matinée. Dès son lever, il s'était rendu au Gourguillon pour faire réparer une navette chez Tempia, une vieille connaissance à lui. À son retour, vers 10 heures, il avait trouvé tous en dessus-dessous, dans le quartier des terreaux. On battait la générale. De tous côtés accouraient des gardes nationaux en armes. Devant le palais Saint-Pierre, des dragons et des gendarmes étaient rangés en bataille. En face étaient massées les troupes de ligne, ayant à leur droite une batterie d'artillerie. Les fourriers, des musettes à la main, distribuaient des cartouches aux soldats. Lui s'étonnait de cette agitation militaire. À la fin, un cordonnier qui, de sa porte, examinait ce remue-ménage, lui avait appris que le général Roguet, commandant de place, venait d'arriver à l'hôtel de ville et que la troupe se tenait prête à toute éventualité. Mais il ne se doutait pas de ce qui s'était passé à la Croix-Rousse. Hélas, c'était la guerre civile cette fois. Il allait arriver de grands malheurs. Des deux côtés, on y mettrait de l'acharnement. Les bras pendants, le dos voûté, les jambes chancelantes, Jacquemin entrevoyait toutes les horreurs de cette guerre odieuse et barbare entre citoyens. Les incendies, les inévitables massacres de femmes, d'enfants. Et après, au milieu des ruines amoncelées, que d'innocentes victimes, quelle désolation! Et tout ça, pour un peu trop d'exigence d'un côté et quelques imprudences de l'autre. Ah! Qu'il lui semblait loin déjà le jour, il n'y avait pas plus d'un mois pourtant, où lui, pauvre tisseur, avait obtenu la promesse qu'on discuterait un tarif. On avait crié « Vive le préfet » ce jour-là. Demain, on lui logerait peut-être une balle dans la tête. Marius, grisé, cherchait à rassurer son père. On n'en viendrait pas à ses extrémités. Que savait-on? Peut-être, devant l'énergique attitude des ouvriers, les autorités exigeraient-elles des fabricants les concessions qu'ils avaient refusées? Mais Jacquemin ne croyait pas à ces enfantillages. Il ne voyait que trop bien où on allait. Brusquement, Martinon accourut, demandant s'il y avait là quelqu'un venu de la ville et si la grande côte était libre. Tiré de ses réflexions, Jacquemin s'avança et serra la main de son camarade. Non, la grande côte n'était pas libre. Les gardes nationaux étaient échelonnés tout le long de la rue des Capucins, depuis le bas de la grande côte jusqu'à la place Croix-Paquet. Pour remonter, il avait dû prendre la rue des Fantasques, à laquelle on aboutissait par l'escalier de la maison aux 14 étages. C'était bon à savoir. Martinon le remercia et alla rejoindre Buisson au corps de garde établi rue des Pierres-Plantées. Alors, le père reporta les yeux sur Marius. Il lui était douloureux de voir son fils un fusil à la main. Lui aussi se battrait donc. Grand Dieu! Il allait l'exhorter à la sagesse, à la prudence. Marius, devinant sa pensée, l'invita à rentrer à la maison pour tenir compagnie à la mère. Jacquemin se défendit. Non, sa place était là. Il ne voulait pas fuir au moment du danger. S'il était tué, le grand malheur, ma foi, il pouvait mourir. Il y avait assez longtemps qu'il travaillait. Mais il pourrait donner de bons conseils et peut-être empêcher les enragés de faire trop de bêtises. Marius n'insista pas. Il était fier de son père. Mais il demeura près de lui, se promettant de l'éloigner le plus possible du danger. Midi venait de sonner à tous les clochers de la ville. Tout à coup, la sentinelle de faction à la barricade donna l'alarme. Une troupe armée montait la grande côte. Aussitôt, redoutant une attaque, les ouvriers accoururent en foule, prêts à vendre chèrement leur vie. on distingua bientôt les assaillants. C'étaient des lignards et des gardes nationaux, traînant après eux deux pièces de canon. Un groupe d'habits chamarrés marchait en tête. À 200 mètres, on les reconnut. C'était le préfet et le général Ordonneau, en costume officiel. Debout, au sommet de la barricade, Buisson les arrêta.
« Halte là !»
cria-t-il de sa voix énorme.
« Où je commande le feu ?»
50 fusils s'abaissèrent, mettant la troupe en joue. Cependant, le général et le préfet, bravement, continuèrent à monter. La main haute, avec sang-froid, M. Bouvier du Molard demanda.
« Pardon, quel est le chef ici ?»«
C'est moi, Buisson !»
répondit le colosse pris de respect.
« Que voulez-vous, monsieur le préfet ?»«
Nous venons en parlementaire. Vous êtes venu à moi le 19 et le 25 octobre. À mon tour, je vais à vous. Je veux savoir quel but vous poursuivez. Nous vous demandons de nous recevoir. »
Après une courte hésitation, Buisson répondit.
« Bon, mais pas tous ces troupiers et ces gardes nationaux qui vous suivent. Nous ne recevrons que vous deux, ou personne. »
« Soit, » dit le préfet. Sur un ordre du général, l'escorte fit halte, l'arme aux pieds. Les deux fonctionnaires s'approchèrent seuls. Aux fenêtres et au sommet de la barricade, les fusils braqués sur les soldats se relevèrent. On descendit une échelle pour établir un passage à travers les obstacles. Mais le général et le préfet n'avaient pas encore gravi la moitié des échelons que la troupe, craignant pour eux un guet-apens, s'avança pour les suivre.
« Les traîtres !»
hurla Buisson. Les ouvriers s'indignèrent. Après la promesse du préfet, on essayait de les surprendre. Ces canailles ne valaient pas des balles, des pierres comme à des chiens. L'échelle promptement retirée, une grêle de pavés s'abattit sur l'escorte, blessant des hommes, au milieu des imprécations et des cris de colère. Indécise, la troupe s'arrêta. Quelques gardes nationaux abaissèrent leurs armes, prêts à faire feu. Mais de peur d'atteindre les fonctionnaires debout sur la barricade, ils renoncèrent à tirer. L'escorte rétrograda de 100 pas et se tint sur sa défensive. Le préfet demandait à parler à la foule. L'endroit n'était pas propice. La rue étroite ne permettrait qu'à un petit nombre d'ouvriers de l'entendre. Frédéric proposa d'aller à la mairie. On accepta. Buisson donna l'ordre au chef du poste, La Chapelle, de garder 100 hommes, lui recommandant de ne pas perdre de vue la troupe, et le chef d'atelier prit sa place au fait de la barricade. Entraînant après eux la masse des ouvriers, le général et le préfet se dirigeaient vers la mairie. Bientôt, tous deux parurent au balcon, entourés de quelques-uns des chefs que les tisseurs s'étaient donnés. En bas, grouillait la multitude armée. Quelques hommes plus exaltés s'agitaient, menaçant et criant.
« Du travail ou la mort !»
M. Bouvier du Molard s'avança d'un pas en avant du groupe. Calme, tête nue, il attendit. Son sang-froid imposa respect aux plus violents. Le tumulte s'apaisa. Alors, de sa voix franche et sonore, qu'il connaissait déjà, le préfet exhorta les ouvriers à la conciliation. Il les engageait à reprendre cette attitude digne et pacifique qui leur avait fait tant d'honneur. Il avait à peine prononcé quelques paroles que là-bas, vers la barricade, une épouvantable fusillade éclata lugubrement dans le grand silence. Un premier feu de peloton, puis un second, et dans les intervalles, des cris, des coups de fusil isolés. Soudain, le canon tonna, couvrant tout. L'escorte, croyant le général et le préfet en danger, brusquait l'attaque. De la foule s'éleva de nouveau un immense cri de colère. On trahissait le peuple. Malédiction ! Aux armes ! Aux armes ! Les poings serrés, Buisson lâcha un affreux juron. Puis, saisissant le bras de M. Bouvier du Molard,
« Messieurs, dit-il, vous êtes nos otages. »
Et s'adressant aux hommes qui l'entouraient, il ajouta,
« Je vous les confie, qu'on les respecte. »
Aussitôt, bondissant sur la place, il s'élança à la défense de la barricade et entraîna les ouvriers. Mais, au même instant, une bande de forcenés se précipitait dans la mairie, courait au préfet, se ruait sur lui, l'arrachait brutalement du balcon, lui mettait le poing sous le nez, et des voix rauques d'ivrogne lui criaient
« Traître vendu, va ! Combien t'ont-ils payé, les fabricants ? Dis, canaille !»
On le traîna dehors, on lui arracha son épée, on le frappa. Une bûche, lancée d'une fenêtre, l'atteignit à l'épaule et le blessa. Lui restait digne, sous les insultes de ces brutes, dédaignant même de se défendre. Quelques braves gens vinrent à son secours. Jacquemin retint le bras d'un individu qui allait frapper le préfet d'un couteau de boucher à large lame.
« Malheureux, tu n'as pas honte ? Les gardes nationaux ont tué mon frère,
répondit l'homme.
« Je le vengerai !»
Et il s'éloigna farouche. Jacquemin, bravement, avait pris le préfet par le bras droit. Le vieux Frédéric le prenait par le bras gauche. Avec beaucoup de peine, ils l'arrachèrent aux forcenés qui le malmenaient. Quelques bons citoyens les escortaient, parlant à la bande, affirmant qu'ils emmenaient le préfet par ordre de Buisson pour le garder à vue. Ils parvinrent à gagner une maison voisine, dont ils fermèrent la porte sur eux. Monsieur Bouvier du Molard était sauvé. Ils montèrent au premier étage et frappèrent. Il n'y avait là que des femmes, à demi mortes de peur, avec qui on parlementa longtemps à travers le Judas. À la fin, elles ouvrirent, peu rassurées sur les conséquences de cette hospitalité, et les firent entrer dans une pièce carrelée où le préfet s'assit, brisé de coups et très pâle. Les hommes qui l'accompagnaient restèrent debout, pendant que les femmes, arrachées à leurs lamentations, s'empressaient autour de lui et lui donnaient des soins.
« Ce n'est rien, ce n'est rien, » disait-il.
Dès qu'ils purent se reconnaître et se compter, ils s'aperçurent que le général Ordono n'était pas avec eux. Était-il resté entre les mains de ces misérables ? Qu'était-il devenu ? Le vieux Frédéric le savait, lui. Il avait vu Petrus Salavin l'emmener de la mairie par la porte de derrière pour le cacher dans sa maison, qui était près de là. Le général était donc en sûreté. À la barricade, la fusillade continuait, très vive. Étourdi par tout ce qui venait de se passer, Jacquemin remarqua seulement alors que Marius l'avait quitté. Il était sans doute retourné là-bas. Oh, le pauvre enfant, pourvu qu'il ne lui arrivât rien. Mais il était brave, le petit. C'était un homme. Dans le murmure des voix, retentit une brusque exclamation.
« Ah ah, ça va bien, la musique. Entendez-moi ça. »«
Diano, » fit Jacquemin.
« Que diable faites-vous là ?»
Heureux de se rencontrer en un pareil moment, les deux vieux échangèrent une poignée de main. Italien d'origine, Diano avait fait presque toutes les campagnes de l'Empire avec un cousin de Jacquemin, sergent à la 57e demi-brigade. Maintenant, il était commis à la Sauvagère et capitaine de la garde nationale de Saint-Rambert. il expliqua comment il se trouvait là. Le matin, des ouvriers de la Croix-Rousse étaient descendus à l'île Barbe pour entraîner avec eux les ouvriers de la Sauvagère. M. Faille, conseiller de préfecture, ayant voulu leur barrer le passage en faisant fermer les barrières du pont, les ouvriers l'avaient injurié et menacé de le jeter à l'eau. Lui, Diano, avait alors fait battre le rappel et rassemblé ses gardes nationaux pour rétablir l'ordre. Mais il n'avait pu retenir ses ouvriers et les avait accompagnés à la Croix-Rousse pour les empêcher de commettre des excès. « Vous avez bien fait, » dit Jacquemin. « Pensez ce qui serait arrivé si on ne s'était pas trouvé là pour arracher le préfet à ses énergumènes. Il ne faut pas le quitter. Il pourrait revenir. »«
Restons, restons, »
approuva Diano. « C'est égal, » ajouta-t-il, s'approchant de la fenêtre. « Ils font là-bas une drôle de musique. » Avec rage, les ouvriers défendaient la barricade, et les assaillants, tenant assaut sur assaut, s'épuisaient en vains efforts. Décimés par les balles, par les pierres lancées des toits, accablés par le nombre, ils commençaient à reculer. Tout à coup, un gonne arriva hors d'haleine. Des soldats gravissaient la côte Saint-Sébastien.
« Sacré tonnerre !» s'écria Buisson. « Il ne manque plus que ça, qu'il nous tourne et nous balaie tout le plateau. Prends 300 hommes, Martinon, et en avant, et fais-leur vivement redescendre la côte. »
À la hâte, Martinon compta les hommes et les lança au pas de course vers la place des Bernardines. Marius était du nombre. Déjà, on entendait des clameurs poussées par les gens du quartier, et, du côté de la place Croix-Paquet, on distinguait le son grêle des trompettes de cavalerie.
« Halte !»
commanda Martinon. Ses hommes s'arrêtèrent, les regards anxieusement fixés sur la montée. Presque aussitôt, à la hauteur de la rue Motet de Gérando, 60 dragons parurent. Un capitaine en tête, gravissant la côte au galop, en colonne par quatre, le sabre au clair. Le sol tremblait. Des étincelles jaillissaient des pavés sous les fers des grands chevaux normands, et les fourreaux cliquetaient bruyamment contre les étriers. Devant l'escadron, quelques ouvriers fuyaient, éperdus. Les cavaliers les atteignirent. Les malheureux tombèrent, sabrés, foulés aux pieds des chevaux.
« Pour l'attaque ! Chargez !»
commanda l'officier.
« Aux maisons !»
cria Martinon. À droite et à gauche, en un clin d'œil, les ouvriers se dispersèrent, évitant la charge, les uns barricadant les portes d'allée, les autres ouvrant le feu des fenêtres. Et les dragons, le sabre en avant, penchés sur le cou de leurs chevaux, firent irruption sur la place. Ils avaient chargé en vain. Trois canons, avec leurs caissons, suivaient au galop. Dételant vite, les artilleurs mirent les pièces en batterie et ouvrirent le feu, enfilant les tapis jusqu'aux pierres plantées. À son tour, un bataillon de la garde nationale déboucha au pas de course, venant leur servir de soutien. Mais bientôt, des maisons environnantes, partit une fusillade terrible. Atteints par d'invisibles tirailleurs, les servants tombaient autour des canons. Sous les balles, les chevaux des dragons se cabraient. L'un d'eux, affolé, s'emporta et redescendit la côte à la charge, traînant son cavalier blessé, le pied pris dans l'étrier. Bravement, les gardes nationaux ouvrirent le feu contre les fenêtres. Mais, sans abri, dominés de toutes parts, ils étaient frappés par dizaines. Les ouvriers tiraient sans relâche. Les cartouches épuisées, ils montèrent sur les toits, couverts de femmes et d'enfants, et sans trêve, firent pleuvoir sur les assaillants une grêle de tuiles. Marius n'avait pas tiré. Il lui répugnait de frapper des hommes sans défense. Ces massacres de soldats à coups de pierre, comme on eût fait pour des chiens enragés, lui faisaient horreur. Il se serait battu, face à face, mais ce n'était qu'une boucherie révoltante. Et la lutte continuait, inégale, atroce. À travers les détonations incessantes, la voix des officiers excitait les hommes. Faisant un suprême effort, les gardes nationaux se ruèrent avec rage sur les maisons d'où les insurgés tiraient. Mais les portes massives résistaient aux coups de crosse. Il fallait renoncer à vaincre. Les assaillants battirent précipitamment en retraite, emportant leurs morts et leurs blessés. Pour emmener les canons, on remplaça par des chevaux de dragons les chevaux d'artillerie abattus par les balles. Mais, non dressés au trait, la plupart se cabraient. À la descente rapide, le porteur de la seconde pièce buta et s'abattit lourdement. L'artilleur qui le montait, projeté en avant, alla s'ouvrir le crâne contre l'angle d'un mur, souillant le pavé de sang et de débris de cervelle. Moins maltraités, protégés par leurs casques, les dragons, couvrant la retraite, se retirèrent les derniers. Les hommes démontés marchaient en tête. La place était libre. Des hurrahs retentirent, poussés à plein poumon des fenêtres et des toits. Et, des pierres plantées, on répondit aux cris de victoire. Partout, la fusillade avait cessé. Les ouvriers étaient maîtres du plateau. La force armée cédait à l'émeute triomphante. La nuit tombait, brumeuse et rapide. Marius, tremblant de fièvre, retourna près de la porte de la Croix-Rousse, à la recherche de son père. Après des allées et venues, à travers la foule bruyante, il finit par le retrouver. Diano était avec lui. Heureux de se revoir, sains et saufs, le père et le fils, émus, s'embrassèrent. Puis, se remettant peu à peu, Jacquemin prit une prise et raconta ce qui s'était passé autour de lui. Ils n'étaient pas restés sans rien faire, Diano et lui. Un peu après l'attaque, une bande d'hommes ivres, conduits par Favre, était venue sous les fenêtres de la maison où s'était réfugié le préfet. Sur un brancard, ils portaient quatre cadavres d'ouvriers. « Voilà quatre victimes !» s'était écrié l'un d'eux. « Il nous en faut une cinquième, pour les venger !» Puis, forçant la porte de la maison, ils étaient montés, les armes à la main, et avaient voulu contraindre M. Bouvier du Molard à leur signer un bon de 40 000 cartouches et de 500 gargousses. Mais le préfet avait montré un courage à toute épreuve. Malgré des menaces de mort, il s'était refusé avec indignation à ce qu'on exigeait de lui. Quant à ces misérables, on avait eu 1000 peines à leur faire lâcher prise et à les éloigner. On n'était pas armés, que diable. Et si Diano n'avait pas crié plus fort qu'eux... Bref, après leur départ, dans la crainte d'une nouvelle agression, Frédéric avait offert à M. Bouvier du Molard de le faire évader par les jardins, sous un déguisement. Mais jamais le préfet n'avait voulu y consentir. Diano interrompit.
« Bien mieux ! Le préfet les avait suppliés de le conduire jusqu'à la barricade, où il voulait parler aux ouvriers.
Ma foi, on l'y avait amené. » S'animant, le vieux soldat donna des détails. Le préfet était monté sur une borne pour se faire entendre.
« Ouvriers, avait-il dit, écoutez-moi. Si vous croyez encore que je vous ai trahi, prenez ma vie. Je la livre à votre vengeance. Mais, si vous pensez que je puisse contribuer à faire cesser cette horrible guerre civile, rendez-moi à mon administration. J'agirai en bon père. »
Ah, ça avait fait de l'effet. Il y avait bien encore des soupçonneux qui ne voulaient pas le lâcher, disant que tant de générosité serait de l'imprudence. Mais Buisson avait voulu qu'on rendît la liberté aux prisonniers, et personne n'avait insisté pour le garder. « Alors, reprit Jacquemin, Diano, Frédéric et moi, nous avons emmené le préfet. » La côte des Carmélites était tranquille. En chemin, on ne les avait pas inquiétés. Ils l'avaient accompagné jusqu'à l'hôtel de ville. En les quittant, il les avait remerciés de tout son cœur, disant qu'il leur devait la vie, et il avait voulu les embrasser tous les trois. « Vois-tu, Marius, le préfet, on a tort de crier contre lui. C'est un brave homme. »
« Et qui n'a pas peur, sacrebleu !» ajouta Diano.
Dans le choc des événements, la fierté de leur bonne action soutenait ces deux vieux.
« Eh bien, dit Marius,
qu'il nous fasse rendre justice, c'est tout ce qu'on demande. » Jacquemin secoua la tête. Ce n'était pas si simple de mettre d'accord des intérêts contraires. Et, de nouveau, ses impressions le poursuivaient. Il avait besoin de parler encore de ce qu'il avait vu. La place des terreaux était couverte d'une foule consternée. De temps en temps, des brancards la traversaient lentement. C'étaient des morts, des blessés qu'on transportait provisoirement à l'hôtel de ville. Et des femmes, pâles d'anxiété, s'élançaient, tremblant de reconnaître le cadavre de leur père ou de leur mari. Que c'était triste à voir. Oh, quelle horreur que la guerre civile! Frissonnant de terreur et de froid, Jacquemin prit le bras de Diano et l'entraîna. « C'est vrai, grommela le vieux soldat, c'est plus triste que la vraie guerre. » Il faisait complètement nuit. Sur la place, dans le brouillard, les ouvriers veillaient en armes, autour de grands feux qu'ils avaient allumés. Les uns nettoyaient leurs fusils, d'autres fabriquaient des cartouches, fondaient des balles avec des gouttières de plomb. Ayant presque tous des morts à pleurer, ils songeaient, l'air sombre, aux vengeances du lendemain. Des femmes, des enfants, venaient apporter à boire et à manger. Aux lueurs fauves et mouvantes des feux de bivouac, c'était comme un repas funèbre. On parlait bas, l'accablement succédant à l'action. Et la haute silhouette de buissons, errant, silencieux, de groupe en groupe, se profilait au loin, grandie par les feux. Jacquemin se sentait brisé de fatigue. Il voulut rentrer. Il fallait tranquilliser la mère, qui devait les croire perdus. Diano les accompagnerait. Il mangerait la soupe avec eux. Lui aussi devait avoir le ventre vide.
« Oui, père, il vous faut rentrer.
Mais toi, Marius ?»«
Moi, je suis commandé de garde à la barricade. »
Le père eut un haussement d'épaule, puis d'une voix navrée, il reprit.
« Allons, à la grâce de Dieu. »
« Embrassez la mère. Dites-lui que je n'ai pas de mal. Faut espérer que tout sera fini demain, père. »
Et, de peur de laisser voir son émotion, Marius s'éloigna rapidement vers les pierres plantées, tandis que les deux vieux trottinaient le long des remparts. Toute la nuit, dans la crainte d'une surprise, des patrouilles d'ouvriers avaient parcouru les abords de la Croix-Rousse, fouillant les impasses et les cours. Par surcroît de prudence, Buisson avait fait élever une seconde barricade dans la grande côte, à la hauteur de la rue Néret. Jusqu'à minuit, à la lueur des falots, les hommes de garde du poste des pierres plantées y avaient travaillé, se relayant, escouade par escouade. Relevé de faction à 2 heures du matin, Marius s'était jeté quelques heures sur la paille, dans la boutique du cordonnier Thévenet, transformé en corps de garde. À 7 heures, il se réveilla, frileux, les membres endoloris. Près de lui, les insurgés dormaient encore d'un pesant sommeil, étendus à plat ventre, comme assommés de fatigue. Il sortit. devant la porte. La chapelle, le chef du poste, causait avec des ouvriers, qui y fumaient leurs pipes, le fusil en bandoulière. À 20 mètres de là, s'élevait la barricade. Au sommet, une sentinelle était assise, surveillant à la fois la montée et la rue Masson. La chapelle parlait du général Roguet. Oui, c'était tout de même un rude lapin, qui ne transigeait pas avec son devoir. À preuve, sa réponse au délégué qui lui demandait 40 000 cartouches pour la rançon du préfet. « Je vous les enverrai en détail. »«
Bien répondu, » fit un ouvrier. « Mais il y a du nouveau. »«
Quoi donc ?»« Cette nuit, le général Roguet a fait afficher dans toute la ville une proclamation invitant les citoyens au maintien de l'ordre. Toutes les légions de la garde nationale devront prendre les armes ce matin. »«
Ah ! Qui te l'a dit ?»
Une femme qui est remontée cette nuit à la Croix-Rousse. Hier, elle était descendue en ville avant les premiers coups de fusil. Et elle n'a pas osé se risquer tant qu'on s'est battu. Je dis cette nuit. C'était 4 heures du matin. Des gardes nationaux étaient arrivés, 1 heure auparavant, de Trévoux et de Bourgoin. Et dans les rues, entre Bellecour et les Terreaux, les tambours battaient le rappel. Mais sans grand succès, paraît-il.
« Ils ont peur pour leur peau, » ricana la chapelle.
« En tout cas, » reprit l'insurgé, « la consigne est sévère. Les rues qui avoisinent l'hôtel de ville sont barrées par les troupes, et il est défendu aux habitants d'ouvrir leurs fenêtres, sous peine de recevoir des pruneaux dans leurs vitres, ou ailleurs.
« Allons, » conclut la chapelle, « il y aura encore plus de coton aujourd'hui qu'hier.
On verra plutôt la fin. » répondit l'ouvrier, et il passa une épingle dans la cheminée de son fusil pour s'assurer de son état.
« Ah ! » s'écria Marius. « Entendez-vous ? »
Des clameurs arrivaient du côté de la place. Un homme débouchait de la porte du faubourg, portant un immense drapeau noir sur lequel on lisait en lettres blanches
« Vivre en travaillant ou mourir en combattant ».
Des centaines d'hommes l'entouraient, saluant de leurs acclamations l'étendard de la misère, jurant de vaincre ou de se faire tuer à ce nombre.
« C'est beau, ça !» murmura la chapelle. « Mais, ajouta-t-il avec un geste de mépris, dans le tas, je vois des gens qui n'étaient pas hier avec nous. Ce ne sont pas des tisseurs, pour sûr. Ils ont trop mauvaise mine. »
Tout à coup, il se fit un grand remue-ménage. Des insurgés, par bandes de 20 à 30, sortaient de la porte de la Croix-Rousse et couraient, le fusil sur l'épaule, vers la rue de la Tour.
« Qu'y a-t-il donc ? »
demanda Marius à un compagnon qui passait hors d'haleine.
« Il y a qu'on attaque ! »
cria l'homme sans s'arrêter.
« De quel côté ? Rue de l'Annonciade ! »
Marius voulait les suivre. La chapelle le retint. On ne relèverait le poste qu'à 9 heures. Mais patience, il leur resterait de la besogne. Des coups de feu isolés retentirent du côté du jardin des plantes. Puis, ce furent des feux de fil nourris, crépitant dans le lointain et se succédant à de courts intervalles. Tous les hommes du poste étaient sortis. Prêtant l'oreille au bruit du combat, qui tantôt s'éloignaient, tantôt se rapprochaient, ils échangeaient de brèves réflexions. Au coin de la place, maintenant déserte, parut la maigre silhouette du père Bouvet, dans sa longue lévite marron, montrant la corde aux jointures et aux coudes. Comme d'ordinaire, sans s'inquiéter de l'émeute, l'ancien instituteur allait, la canne à la main, faire sa petite promenade au rempart. Il connaissait tous les habitants de la Croix-Rousse et tutoyait tous les jeunes. Il avait appris à lire à 2 générations. Les insurgés l'aperçurent.
« Drôle d'original !» fit la chapelle.
Il l'appela pour le faire causer. S'entendant ailé, le père Bouvet s'arrêta court, se tourna, la main en abat-jour au-dessus des yeux, puis, rajustant ses lunettes, se dirigea vers le poste. Quand il fut tout près des hommes et qu'il les eut reconnus, il les interpella de sa voix nasillarde.
« Ah, bah, c'est vous, mes amis, qui faites les mutins ?»«
Eh bien, père Bouvet, demanda La Chapelle, qu'est-ce que vous pensez de tout ça ? On ne se laisse pas tendre aisément, hein ?»
Le vieux prit l'insurgé par le bras et d'un ton mystique lui répondit. Ce n'était rien, rien, ce qu'il faisait. Il luttait pour une misérable question d'intérêt, non pour une idée, comme Robespierre, Saint-Just, les héros de la Révolution. Il s'y prenait mal et n'aboutirait qu'à s'enfoncer plus avant dans la misère, car ils ne voulaient pas ouvrir les yeux à l'évidence. Ils avaient engagé la lutte avant d'être prêts. Et ce qu'il fallait préparer, c'était, sur les ruines des monarchies, l'avènement de la République. Eux jouaient un jeu de main, quand ils auraient dû faire œuvre de géant, renverser l'ancien monde pour en bâtir un nouveau. Et le vieillard s'animait, gesticulait, remuant avec volubilité ses yeux vifs derrière ses lunettes bleues. Les hommes hochaient la tête. La Chapelle rappela 93 et les hommes du siège de Lyon. Son grand-père y avait péri et le peuple n'avait pas été plus heureux après la Révolution. Le vieux reprit, plus acerbe. On ne faisait pas d'omelette sans casser des œufs. Qu'était-ce que la vie de quelques milliers d'hommes pour arriver au triomphe d'une grande idée ? La Convention avait manqué de sens pratique. Son œuvre était à recommencer. Sans doute, il faudrait verser beaucoup de sang pour atteindre le but qu'elle avait poursuivi. La suppression des tyrans, la vraie fraternité des hommes et des peuples, la République universelle. Mais il faudrait d'abord s'organiser.
« On n'entend plus de coups de feu, » interrompit Marius.
« C'est vrai, » dit La Chapelle. « Pourtant, si les camarades avaient été battus, les soldats seraient ici. On chante la Marseillaise, » ajouta un ouvrier. « Entendez-vous ? Ce sont les nôtres qui reviennent. Ben, tenez, les voilà !»
Une bande d'hommes parut, marchant par quatre, bras dessus, bras dessous. Favre venait en tête, la face allumée, une gourde en sautoir. Il s'approcha du poste, roulant des épaules, l'air important.
« Eh bien ?» demanda La Chapelle.
Favre chanta victoire.
« Eh bien, on les avait rudement secoués, ces sacrés rossards. C'était une colonne de lignards et de gardes nationaux qui avait cherché à atteindre le plateau par la côte des Carmélites. Les ouvriers de la rue Tolosan et de la rue des Flesselles, à la hâte, avaient élevé de petites barricades et faisaient leur possible pour défendre leur quartier. Mais sans lui, Favre et sa bande, les autres étaient fichus. Il avait débaroulé tout d'un coup du haut de la côte. Ah, malheur ! Comme les lignards avaient reculé. Ça avait chauffé dur au Jardin des Plantes. On avait fini par les refouler vers la rue de l'Annonciade, où ils s'étaient retranchés. Alors, ces lignards avaient vu à quel gars ils avaient affaire. Pendant que la moitié de sa bande avait gardé l'entrée de la rue, les autres étaient allés prendre la troupe Arvert par la place Rouville. Les lignards n'avaient pu résister au feu plongeant qui partait de la maison Brunet. Une partie s'était échappée à grand-peine, regagnant les terreaux. Le reste avait été entouré, pris et désarmé. Quand la garnison du Bon Pasteur avait vu la déroute, elle avait compris qu'elle n'avait plus de secours à attendre de la ville. Elle avait mis bas les armes et les ouvriers l'avaient fait prisonnière dans sa propre caserne. « C'est une victoire, ça !»
ajouta Favre, débouchant sa gourde.
La Chapelle avait poussé une exclamation de surprise. Il ne pouvait croire à ce qu'avait dit l'ivrogne.
Quoi ? la garnison du Bon Pasteur avait mis bas les armes, mais d'autres hommes de la bande confirmèrent la nouvelle. « Cette indécision des soldats ne m'étonne point, » reprit sentencieusement le père Bouvet. « L'année dernière, après les journées de juillet, n'a-t-on pas dit aux troupes que c'était un crime de verser le sang des citoyens ? Et n'a-t-on pas comblé d'éloges le 50e de ligne, qui avait refusé de tirer sur le peuple ? Mais tout n'est pas fini, » ajouta-t-il d'une voix mordante. « Ne chantez pas trop victoire, mes amis. Attendez la suite. Quand je vous dis que vous vous livrez à un jeu d'enfant. » Et un mince sourire aux lèvres, l'ancien instituteur salua de sa canne et continua tranquillement sa promenade. Favre le regardait s'éloigner.
« Il est rigolo, le vieux »
s'écria-t-il avec un haussement d'épaule. « Pas tant que ça, » fit un ouvrier.
« Bah, il est fou, s'il fallait croire tout ce qu'il dit. »
À ce moment, Martinon, avec une bande armée, déboucha de la porte du faubourg. La chapelle s'avança à sa rencontre. « C'est toi qui viens nous relever ?»«
Oui, avec 50 hommes. »
Et Martinon annonça les mouvements qui se préparaient. La chapelle et ses hommes descendirent vers la ville. Buisson tentait de s'emparer des collinettes. Lui, Martinon, garderait le plateau. On était bien armés maintenant. La veille, beaucoup d'ouvriers n'avaient que des bâtons. Aujourd'hui, tous auraient des fusils. On en avait trouvé au Bon Pasteur, sans compter ceux qui avaient été enlevés aux morts après le combat du matin. Tout à coup, on entendit résonner le tocsin du côté de Saint-Just.
« Ah ah !» dit la chapelle. « On sonne la grand-messe là-bas. »
Mais les hommes venaient de signaler un insurgé qui accourait hors d'haleine, criant
« Aux armes !»
Que se passait-il ? Qui l'envoyait ? L'insurgé répondit « Buisson réclamait tous les hommes disponibles. La caserne des Collinettes venait d'être enlevée après une faible résistance et les soldats désarmés. Toutes les voies conduisant à la ville étaient libres. Mais ce n'était pas tout. Les ouvriers de la Guillotière, des Brotteaux, de Saint-Georges et de Saint-Just se soulevaient. L'immense population des faubourgs se précipitait sur Lyon, envahissait les quais et les places. La lutte devenait générale. Sur les ponts du Rhône et de la Saône, dans plusieurs rues, s'élevaient déjà des barricades en planches et en madriers. Des prisonniers avaient donné ces détails. Quand l'insurgé eut parlé, la chapelle dit adieu à Martinon, et, le fusil à l'épaule,
« En avant !»
cria-t-il. Ralliant les hommes qui étaient là, il les lança au pas de course vers la montée Saint-Sébastien. En un quart d'heure, ils atteignirent les Collinettes. Buisson les attendait, sa bande rangée devant la caserne, prête à se mettre en route. Le bras tendu vers la ville,
« Regarde !» dit-il à la chapelle.
Sur la rive gauche du Rhône, les ouvriers des Brotteaux et de la Guillotière, disséminés en tirailleurs, dans les chantiers, abrités derrière des amas de bois, criblaient de balles les soldats et les gardes nationaux rangés sur le quai de Retz et aux abords du pont Morand. Au crépitement continu de la fusillade, se mêlaient, partant de chaque église, les sons lugubres et précipités du tocsin, couverts, d'intervalle en intervalle, par la grande voix du canon. De toutes parts, des nuages de fumée s'élevaient chassés par le vent, et l'odeur grisante de la poudre montait jusqu'à eux.
« Tonnerre ! Fit la chapelle. Ça se gâte pour les autres. En avant, mes amis,
cria Buisson.
Nous allons prendre la troupe entre deux feux. La victoire est à nous.
La bande acclama son chef et, au pas accéléré, dévala le long de la côte. Ils étaient 1500. au coin de la rue des Fantasques, un convoi funèbre, suivi par des femmes, venait en sens inverse. À la vue des insurgés, le prêtre, un vieillard à cheveux blancs, s'arrêta, épouvanté. Tête nue, Buisson s'approcha.
« Ne craignez rien, monsieur le curé, » dit-il.
« Avancez, je réponds d'eux.
Ce n'est ni aux prêtres, ni aux morts que nous en voulons. »
Et, se tournant vers ses hommes, il leur fit présenter les armes au convoi qui défila devant eux. La bande armée continua sa route vers le port Saint-Clair. Là, une batterie tirait sans relâche pour empêcher les insurgés de passer le pont Lafayette et le pont Moran. Les boulets franchissaient le Rhône et allaient balayer les Brotteaux, faisant voler les abris de planches des chantiers ou s'enfonçant plus loin dans les murs des maisons. Sans perdre un instant, Buisson embusqua ses hommes derrière les arbres du quai. Les meilleurs tireurs montèrent sur les toits voisins pour décimer les artilleurs. Pris à revers, sans pouvoir riposter, les servants abandonnèrent le port, emmenant leurs pièces, et se replièrent vers le quai de Retz. Mais déjà, une compagnie s'avançait pour refouler les insurgés. Aussitôt, au commandement de son chef, toute la bande, Buisson en tête, s'élança sur le quai avec des cris féroces, ouvrant le feu sur les soldats. Pas à pas, tirant et rechargeant sans cesse, les insurgés avançaient, grisés par leur premier succès, par la fièvre du combat. Marius avait d'abord tiré de loin, lorsqu'il distinguait à peine les soldats. Maintenant que les adversaires se rapprochaient, qu'il voyait tomber des morts et des blessés, il était pris d'étourdissement. Ses tempes battaient avec violence. Une voix s'élevait en lui qui lui reprochait d'être là parmi des émeutiers. Il se rappelait les paroles de son père. Après tout, ses soldats, ses gardes nationaux, défendaient l'ordre. Les haines qu'il avait partagées s'étaient évanouies. Il ne voyait plus que l'horreur de cette guerre entre citoyens. Ah, s'il eût pris la fuite, mais on le croirait lâche, il resterait.
« Tu ne tires plus, toi ?» lui dit un insurgé. « À quoi rêves-tu donc ?»«
Je ne peux pas, » répondit Marius, oppressé. « Je vois trouble. Pourtant, je n'ai pas peur. »
Vers le pont du collège, une immense clameur s'entendit dans les intervalles de la fusillade. Un ouvrier monta à un arbre pour voir. C'était Lacombe, avec les canuts de Saint-Georges et de Saint-Just.
« Des renforts ?
Alors, ce ne sera pas long. »
Une forte colonne débouchait de la rue Neuve, venant prendre les troupes en flanc. À la tête des tisseurs de son quartier, auxquels s'étaient joints quelques libéraux, décorés de juillet, Lacombe s'était emparé de la caserne des Carmes des Chaussées. Puis, envahissant la ville, sa bande avait pillé les magasins de trois armuriers dans le voisinage des Célestins et continué sa route vers le Rhône. Dans l'allée de Largue, un républicain, Drigeard des Garniers, avait distribué des fusils de chasse à la foule et tenté de faire tourner l'émeute au profit de la politique. Quelques cris de « Vive la République !» s'étaient fait entendre, sans trouver d'écho. La bande de Lacombe, rangée en bon ordre, s'avançait sur le quai de Retz. Du pont Moran, un escadron de dragons s'élança pour les charger.
« Gare à eux !»
cria la chapelle.
« S'ils les attendent, ils sont perdus !»«
Minute, sacrebleu !» répondit Buisson.
« Regarde-les faire !»
Par une habile manœuvre, Lacombe faisait retirer ses hommes dans une petite promenade plantée d'arbres. Lancés à fond de train, les cavaliers passèrent,
sans rencontrer d'obstacle. Alors, Lacombe, ouvrant le feu, ramena les dragons en désordre sur les gardes nationaux déployés en tirailleurs.
« Bravo, bravo !» s'écrièrent les hommes de Buisson.
De Saint-Clair et des Breteaux, des milliers de voix leur répondirent, saluant de leur « hurrah » les canuts de Saint-Georges. Précipitamment, les gardes nationaux qui, des maisons du quai, tiraient sur les ouvriers, battirent en retraite, craignant d'être enlevés. De leur côté, les insurgés des Breteaux gagnaient du terrain. Les soldats semblaient indécis, les gardes nationaux étaient frappés de stupeur et de découragement. D'un violent effort, les ouvriers des Breteaux venaient d'emporter le pont Morand. Le pont Lafayette fut enlevé à son tour, le poste désarmé, le pavillon de l'Octroi livré aux flammes et les registres jetés au Rhône. Débouchant à la fois par les deux extrémités du quai de Retz, les bandes de la rive gauche opérèrent leur jonction, d'un côté avec celle de Lacombe, de l'autre avec celle de Buisson, qui venait leur tendre la main. De toutes leurs forces réunies, refoulant les troupes, les insurgés forçaient à reculer et s'embusquaient pêle-mêle dans les rues Trespas, Basseville et du Pas étroit, rendues bientôt inexpugnables. On se battait à 20 pas. Le combat devenait une épouvantable boucherie. La troupe, déconcertée, pliait sur tous les points. Les officiers s'époumonnaient à stimuler leurs hommes. Un vieux capitaine de ligne grommelait « Sacre bleu ! Si les Lyonnais s'étaient aussi bien battus en 1815, jamais les Autrichiens ne seraient entrés dans leur ville. » Rue du Pas étroit, les insurgés se battaient comme des lions, mais les munitions commençaient à manquer. La chapelle fouillait dans ses poches, vide.
« Des cartouches, bon Dieu !»«
En voilà !»
dit derrière lui une voix rauque. Marius crut reconnaître cette voix et se retourna vivement. À quelques pas, Favre gisait, mortellement blessé, au milieu d'une mare de sang, le dos appuyé à l'aventure du bouquiniste Thomé.
« Prends, Marius !»
balbutia-t-il dans un râle.
« Il y en a encore, dans la poche de mon gilet !»« Une balle dans l'estomac, ah les cochons ! Je suis foutu !»
Le visage de l'ivrogne devint subitement livide, et, dans un hoquet final, il expira. Déjà, le jour baissait. Les heures sanglantes s'étaient succédées, rapides. Les insurgés avaient trompé leur faim avec quelques gorgées d'eau-de-vie. Et la lutte continuait, acharnée. Les uns, grisés par leur succès, voulant la victoire complète, les autres, combattant pour l'honneur du drapeau, ne se décidant pas à être vaincus sans gloire. Dans ces rues tortueuses, la cavalerie était devenue inutile. Les dragons s'étaient retirés sur la place des terreaux, se réservant pour une suprême charge si l'hôtel de ville était menacé. En tête des soldats, Marius admirait un sergent-major, un grand blond, alsacien sans doute, qui semblait invulnérable. Les balles sifflaient autour de lui, tuant ou blessant ses camarades, et, impassible, faisant son devoir sans reculer d'une semelle, il tirait et rechargeait toujours. Ses victimes se comptaient dans les rangs des insurgés. Près de Marius, des hommes tombaient, frappés par le sergent. À regret, pris de sympathie pour un si brave adversaire, Marius l'ajusta et fit feu. Une horrible émotion lui serra la gorge. Il l'avait touché à la tête. Il avait tué ce jeune homme, ce fier soldat. En un clin d'œil, il entrevit là-bas, bien loin, près de Strasbourg, une mère, une sœur, pleurant le pauvre sergent et maudissant son assassin. Un frisson le secoua. Le regard fixe, il avait tout vu. Le sous-officier, vivement, avait porté la main au front. Son arme lui avait échappé. Il avait chancelé, puis, battant l'air de ses deux bras, il s'était affaissé lourdement. À ce moment, une bande d'insurgés débouchant de la rue Royale traversait le quai au pas de course et venait prendre les soldats à dos. Puis, on se répétait les nouvelles qu'un homme venait d'apporter. Les troupes étaient chassées du quai Saint-Vincent. La poudrière de Serein était tombée aux mains des ouvriers. Après un combat acharné où 15 soldats du génie étaient restés sur le carreau, le capitaine Peloux, qui la défendait, voyant la résistance impossible, s'était rendu, après avoir encloué les canons et noyé les poudres dans la Saône. Enfin, l'arsenal d'Ainay venait d'être emporté. Ce furent des cris de joie. Exténués de fatigue, blessés en grand nombre, leurs cartouches épuisées, les insurgés saluaient avec délire le triomphe de l'émeute qui s'étendait comme une tache d'huile de proche en proche, envahissant la ville entière. La nuit assurait leur victoire. Précipitamment, les troupes, abandonnant le champ de bataille, battaient en retraite et se repliaient vers la place des Terreaux et les rues adjacentes. Déjà cernées de toutes parts, elles entouraient l'hôtel de ville. Protégeant contre l'éventualité d'un assaut les autorités qui s'y étaient réunies. Quelques pelotons de gardes nationaux étaient demeurés fidèles. Les autres, dans l'affolement de la défaite, s'étaient dispersés. Les ténèbres séparaient, çà et là, les derniers combattants. D'un accord tacite, le feu cessa. Alors, dans le silence, Marius se vit seul. Il était sur la place du collège. À bout de force, en proie à une fièvre ardente, il se jeta à terre, le dos contre un mur. Laissant tomber son arme brûlante, il essuya la sueur noire de poudre qui coulait de son front et, pris d'une immense tristesse, regarda autour de lui. La place et les rues adjacentes étaient jonchées de cadavres. Des femmes apparaissaient, longeant craintivement les maisons. Pâles, les yeux hagards, pareilles à des fantômes, elles cherchaient parmi les morts. Dans le tumulte des idées qui agitaient son cerveau, Marius pensa au sergent-major qui l'avait frappé au front, à l'entrée de la rue Pas-Étroit. Était-il mort ou seulement blessé? Il essaya de chasser ce souvenir qui le troublait comme un remords. Mais en vain, l'image du grand Alsacien blond tombant les bras en l'air revenait sans cesse, obsédante, se présenter à son esprit enfiévré. Comme poussé par une force invisible, il se leva et machinalement se dirigea vers la petite rue. L'endroit était facile à reconnaître. Il se baissa, retourna sans succès plusieurs cadavres de soldats. C'était pourtant bien là que le sergent-major était tombé. À la fin, dans la demi-obscurité, il aperçut, sortant d'un tas de corps, un bras orné d'un double galon doré. Avec peine, il le dégagea. C'était lui. Cette tête blonde, tachée de sang, était bien celle du jeune homme qui combattait là, tout à l'heure, brave et insouciant du danger. Ses yeux étaient fermés maintenant, et ses dents horriblement serrées. Il approcha son visage du sien pour mieux le considérer. Mais un léger souffle vint effleurer son front. Le sous-officier respirait encore. Marius se sentit comme soulagé d'un grand poids. Il vivait. Doucement, il souleva le jeune homme et l'adossa au mur. Des ouvriers passaient sur le quai, il les appela, et en deux mots leur expliqua. Cet homme n'était pas mort, il fallait le sauver. Un blessé n'était plus un ennemi. De leurs fusils, ils formèrent un brancard, y placèrent le sergent, et, sans crainte, allèrent jusqu'au poste de la rue Lafont, le remettre entre les mains des soldats qui relevaient les blessés. Un aide-major s'approcha et examina la blessure. Elle n'était pas grave. La balle avait glissé sur l'os frontal sans entamer la boîte osseuse. Il lui passa sur le visage une éponge imbibée d'eau. À la sensation de fraîcheur, le blessé entr'ouvrit les yeux. « C'est à ce jeune homme que vous devez la vie, » lui dit le chirurgien désignant Marius. Trop faible encore pour parler, le sous-officier le remercia d'un regard. Marius, très ému, lui prit la main. Le blessé la pressa doucement. « Portez-le à l'hôtel de ville, » reprit l'aide-major, s'adressant à deux infirmiers. Et il passa à d'autres blessés. Marius sortit derrière le brancard qui emportait le sous-officier et s'achemina vers la rue Néré. Depuis deux jours, il n'avait presque pas mangé. À peine un morceau de pain partagé avec un camarade entre deux alertes. Depuis deux jours, il n'était pas rentré chez ses parents, qui devaient être dans une inquiétude mortelle. Il voulut promptement les tranquilliser. Ensuite, il rejoindrait les autres. Il prit la côte Saint-Sébastien, mais ses jambes étaient comme paralysées. Il dut la gravir lentement et parfois s'arrêter. Au haut de la côte, essoufflé, il se retourna. Le mugissement de la ville soulevée montait jusqu'à lui, pareil au rugissement prolongé d'une bête énorme. Vers les Brotteaux, des flammes immenses se tordaient convulsivement, éclairant le ciel de lueurs sanglantes. C'étaient les corps de garde brûlés par les insurgés, les chantiers incendiés par les boulets rouges des artilleurs. Des ruines. Encore des ruines. Et toujours, la grande voix de la ville s'élevait. Marius crut entendre alors le gémissement de tous les malheureux gisant là-bas, victimes de l'émeute. Son cœur se serra douloureusement et il se mit à sangloter.